RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Dans sa quête d'une sixième étoile européenne, le Stade Toulousain va innover la semaine prochaine en affrontant en quart de finale un adversaire inédit, les Sharks de Durban, province sud-africaine qui depuis son intégration début de saison à la Champions Cup de rugby fait forte impression. Une seule petite défaite pour 4 victoires convaincantes, dont celle du week-end dernier, 50-35 contre un ancien monstre de la compétition, le Munster. Les Sharks et leur Kyriel de Springboks, entraînés notamment depuis quelques mois par un enfant du Stade Toulousain, club avec lequel il a remporté 2 boucliers de Brennus, 2 Coupes d'Europe avant de devenir l'adjoint de Guy Noves. La saison prochaine, il sera de retour en France avec le grade de manager de l'UBB. En attendant, cette semaine, il va faire bénéficier aux Sharks de ses lumières du rugby européen. Yannick Bru sera dans un instant l'invité des poteaux. Et avec lui, on va évidemment tenter de mieux connaître cette province, mais aussi le rugby sud-africain dans son ensemble. Un rugby qui fait peut-être un peu moins rêver que celui de la Nouvelle-Zélande, mais un rugby qui gagne. Hein. Les Boks champions du monde en titre que les Bleus pourraient bien retrouver sur leur passage dès les quarts de finale de la prochaine Coupe du Monde. Vous l'avez compris, on a beaucoup de questions à poser à Yannick et pour cela, les poteaux sont au complet. Équipe composée aujourd'hui de notre Springboks à nous, Denis Charvet, un physique
de... Non.
Hein, ouais, surpuissant, ouais, évidemment. Ça va, Denis?
Je les ai joués, crois-moi. C'était pas le physique de Springboks. Non, ils étaient épais. Ils sont toujours pleins, d'ailleurs. Quand tu les vois, on en parlera avec Yannick, mais... C'est du lourd.
Wilfried Templier n'a jamais affronté les Springboks. Pourtant, lui aussi, un petit coq, là, un petit coq de France.
Pas de physique
France,
de Springboks non plus.
Et que dire de Manu Massicard? Que dire de Manu Massicard, notre confrère de milieu olympique? Salut Manu.
Je vous laisse médire, allez-y, profitez.
Il a la chance de ne pas les affronter, c'est tout.
Oui, ça c'est une...
C'est eux qui trembleraient.
Évidemment.
J'imagine bien être ces bêtes face à toi. Ouais.
Les Sharks ont les dents aiguisées, un appétit d'enfer après avoir dévoré le Munster. Les requins d'Urban rêvent désormais de croquer à pleines dents les Toulousains.
Le Springbok est une petite antilope bondissante d'Afrique du Sud, d'accord. C'est aussi l'emblème d'une puissance dévastatrice au ras du gazon.
That's quick delivery, that's excellent ball. Here comes Ndola. Lovely little offload. What a finish. Wow. Superbly worked try.
Les Springbok montrent leurs muscles et sans doute un petit peu trop.
Through the gap. Brilliant play there by the left winger. Here comes Hendrickson. He's going to hit the try himself. And a brilliant finish from the right winger.
Il faut quand même spécifier aussi que le Sud-Africain sur la planète rugby, il fait partie des joueurs qui se préparent le plus. C'est-à-dire que physiquement, c'est des bêtes.
Taken on by the big man. Has he gone over? The Sharks have regained their composure and their brilliance from the ball.
Et Aliédé qui peut dégainer Willems, c'est magnifique. Foster qui va aller marquer en point, qui résiste à McBride pour le troisième essai des Sud-Africains.
Ce n'est pas seulement un rouleau compresseur qui essaye de concasser ses adversaires, cette équipe des Springboks. C'est aussi une équipe qui essaye de jouer au rugby, qui a les éléments pour...
Les dents de la mer, vous l'avez entendu, pour évidemment symboliser cette équipe des Sharks, ça veut dire les requins qui n'ont donc fait qu'une bouchée du Munster, battu 50-35 avec 7 essais à la clé, voilà qui a de quoi impressionner. Une équipe, je vous le disais, qui compte donc dans son staff, notre invité du jour, Yannick Bru, qui nous fait l'amitié d'être en direct avec nous dans les poteaux, en direct de Durban. Bonjour Yannick, merci d'être avec nous, ça fait plaisir de t'avoir.
Ouais, bonjour à tout le monde. Salut tout le monde.
Salut Yannick. Je crois que tu l'as oublié un bouclier.
Ah, je lui ai oublié un bouclier. C'est quoi?
2008, 2011, 2012, non? En tant qu'entraîneur, il me semble.
Ah, comme entraîneur, mais je...
Bon, il a parlé que du parcours de joueur.
Eh oui, exactement. J'ai pas parlé du parcours d'entraîneur parce que alors là, on les compte plus, évidemment. Yannick, je le disais, tu fais donc partie depuis quelques mois du staff de cette province sud-africaine. Un choix qui a surpris pas mal de monde ici en France, alors que tout le monde s'arrachait tes services. Pourquoi tu as fait ce choix de partir en Afrique du Sud? J'imagine que c'était un choix bien réfléchi.
Ouais, mais j'avais besoin de me rafraîchir un peu, de recharger les batteries. J'ai vécu après le Stade Toulousain adjoint, puis la fédération, deux postes différents, mais hyper intéressant. Même si à la Fédé on a quand même un peu ramassé, mais ça a toujours été très formateur. Après ça, j'ai pris ma première expérience de head coach à Bayonne, dans un club en pleine mutation. Il y avait beaucoup de choses à faire autour de la formation des jeunes et c'était super. Donc on est monté en top 14, on est redescendu, ça a été hyper douloureux, puis on est remonté avec énormément de jeunes, on avait tout le temps sur les feuilles de match 8 à 10 mecs formés au club qui avaient démarré chez les jeunes. Donc ça a été passionnant, mais ça m'a pris une énergie terrible et j'étais un peu cramé, donc j'ai dit il me faut autre chose, il faut que je me change les idées. Et j'ai eu cette proposition des Sharks. Le rugby sud-africain m'a toujours un peu attiré. Simple, efficace, rugueux, champion du monde régulièrement, et donc j'avais envie de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Donc j'ai pris l'avion et puis j'ai atterri à Durban et puis voilà, j'ai ce statut de consultant avec eux, quoi.
Yannick, c'est un peu curieux que tu aies pris cette option-là, fait ce choix-là, et que je le respecte évidemment, mais quand on vient de la famille toulousaine, t'as grandi au biberon du Stade Toulousain. C'est drôle d'aller choisir un pays qui est une autre culture, qui est tellement loin de notre culture. Je parle notamment du Stade Toulousain, un club qui m'est cher, tu le sais.
Ouais, mais j'avais aussi, je crois, besoin de ça. Je me suis toujours... j'ai quasiment passé toute ma carrière de joueur au Stade Toulousain. Après, j'ai été adjoint 5 ans. Donc, en tout, ça fait 18 ans. Donc, j'étais un peu tatoué. Mais je m'en étais voulu, quand j'étais joueur, de jamais avoir pris une opportunité de découvrir le rugby étranger. J'ai dit, écoute, j'ai 49 ans. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai plus. Donc, je suis parti tout seul. La famille est venue passer quelques breaks avec moi. Mais bon, honnêtement... Ça n'a pas été toujours tous les jours facile, parce que, comme tu l'as dit, une autre culture, une autre façon de coacher, un autre respect de la hiérarchie. Donc, c'est pas simple. Mais là, je pense que j'ai été adopté par tout le monde maintenant. J'ai découvert, en fait, un pays magnifique, un pays dur, mais un pays magnifique, avec des gens hyper attachants qui adorent les Français. Vraiment, ils adorent les Français. Et je prends beaucoup de plaisir. Et je regrette pas un instant d'avoir pris cette opportunité. C'est passé très vite. Là, on est proche de la fin, et j'ai aussi beaucoup appris, ce qui était le but de ma visite, quoi.
Wilfried, tu as quelques questions à poser à Yannick.
Ouais, ce que tu viens de dire, tu as découvert des joueurs connus mondialement, quel a été ton premier contact avec eux, qu'est-ce qu'ils t'apprennent, comment tu les vois évoluer au quotidien. Il y a des grands noms, hein, Colissi, Etsebet et compagnie, il y en a plein chez vous, Nbonambi, on peut même pas tous les citer, qu'est-ce que tu auras à dire de ce contact, de ce que tu vis à leur côté?
Le premier contact, il a été timide, surtout pour moi, parce que c'est vrai que quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a 6 ou 7 champions du monde, tu te dis merde, est-ce que je suis au niveau? Et très rapidement, tu es frappé par la simplicité de ces gars-là. Et la simplicité et leur engagement, pas sur le terrain dont Denis parlait, mais leur engagement dans la semaine. Le rugby, c'est une affaire très sérieuse ici. Les mecs, ils bossent, ils font leurs devoirs. Ils pensent au rugby, ils mangent au rugby, ils dorment au rugby. Alors, il n'y a pas des moyens extraordinaires aux Sharks de Durban. Et je pense que... les joueurs du Stade Toulousain seraient vraiment déçus de voir les structures d'entraînement, la qualité de nos terrains d'entraînement et tous ces petits trucs qui font que c'est sexy. Ici, c'est pas sexy. Par contre, les gars, ils sont vraiment, vraiment au travail. Au travail quand ils rentrent chez eux, dans le débriefing des entraînements, dans la préparation de l'entraînement du lendemain. Vraiment, le rugby, c'est une affaire très, très sérieuse et j'ai quand même découvert ça ici. Et je comprends mieux pourquoi, quand tu vois Rassi Rasmus, quand tu vois ce qu'ils ont fait avec les Springboks, comment aussi rapidement ils ont mis sur pied une équipe qui a été champion du monde.
Comment ça a matché entre toi, l'entraîneur d'avant français, s'il y en a des avant français, des avant dans le monde qui peuvent rivaliser avec eux, c'est peut-être bien les Français justement, et eux, ces avant Sudaf, ils étaient un peu, on s'est un peu reniflé avant, ou qu'est-ce qu'ils voulaient apprendre de toi et toi leur donner?
Écoute, honnêtement, naturellement, ils ont un a priori positif sur la France, ils aiment la France, ils aiment notre mode de vie. Alors c'est difficile de se situer au départ parce qu'eux ils sont jamais dans l'émotion. Voilà, ça gueule jamais. faut faire très attention quand tu critiques un mec. D'ailleurs tu le fais pas en public. Les séances vidéo à l'ancienne comme celles qui nous font rire en France. Ici c'est pas possible. Tu t'adresses jamais mal à quelqu'un. Il y a toujours un respect. Qui est non négociable et donc c'est assez feutré, mais il y a une ambiance de fierté, de de domination physique, que tu, je sais pas, il faut vivre avec eux, tu sens ça tous les jours. Tous les jours, et ils ont un rapport au travail, je me répète, mais un rapport au travail qui est vraiment particulier. Et je pense que c'est lié à la société sud-africaine, c'est une société qui souffre, c'est dur, hein, la vie en Afrique du Sud, notamment à Durban. Franchement, je sais pas si vous connaissez, mais, ouais, Durban, c'est raide, c'est vraiment raide, il y a de l'insécurité, il y a, ouais. C'est raide, c'est Denis.
Oui, Denis.
Excuse-moi. Non, mais en même temps, Yannick, j'aime te dire que cette culture sud-africaine, elle date de très très longtemps. Moi, j'ai joué il y a 40 ans contre eux. Ils étaient déjà raides, et puis ils étaient déjà professionnels dans l'âme, quoi. Pour moi, c'est un autre monde. Et je comprends ce que tu dis quand tu dis qu'ils ont une approche qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Et effectivement, ils ont. Oui, c'est pas la même culture. Et ça va être compliqué au départ. Et après, tu dois te régaler, je pense. C'est ce que tu dis.
Manu Massicard, est-ce qu'il y a un thème avec lequel, sur lequel tu voudrais interroger Yannick ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de savoir ?
Ouais, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, Yannick, là-bas ? Est-ce qu'on est véritablement dans la caricature quand on les voit et qu'on parle de la domination physique ? Est-ce que c'est la première chose que le rugbyman sud-africain travaille dans la semaine et globalement dans son emploi du temps ? Ou est-ce que, quelle est la part du rugby par rapport au physique, justement ?
Ouais, alors c'est vrai que la domination physique, ça fait partie des choses qu'ils ont dans leur gène et leur culture, donc je ne reviens pas dessus. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu réducteur, et moi je peux te dire maintenant que je suis à l'intérieur, ils étudient tout, ils décortiquent tout, on a un nombre incroyable d'entraîneurs, et parfois, après avoir tout étudié, il leur semble que le chemin le plus court pour la victoire, pour aller vers la victoire, c'est... un rugby brutal, en tout cas c'est le choix des Sud-Africains. Mais je peux te dire que même si on se fait un peu chier quand on regarde les Springboks, je peux te dire que s'ils ont choisi ce rugby-là, c'est parce qu'ils pensent que c'est le chemin le plus rapide pour aller à la victoire. Mais ils étudient quand même toutes les options. Ce qui revient toujours, c'est qu'on passe un temps. Moi, avec mon éducation toulousaine, je te dirais déraisonnable sur le kicking game. Ils ont cette appétence pour la dépossession, pour faire courir les équipes adverses. Il y a une approche tactique du jeu au pied qui m'a fait découvrir des choses, honnêtement. Je sais que l'équipe de France est là-dedans depuis quelques années maintenant. Et voilà, mais je sais que les Sud-Africains, c'est pas des bourrins. Ils ont cette culture de la domination. Par contre, si tu dis tout... tous les angles du jeu, ce qui est possible de faire. On passe un temps incroyable et incalculable en réunion, tactique et stratégique. Mais c'est vrai que parfois, le rendu ne reflète pas ça.
Alors, d'autant que la province dont tu t'occupes, c'est quand même la province qui a fait la part la plus belle au rugby offensif quand même. Les Sharks, c'est plutôt agréable à voir jouer quand même, Yannick.
Oui, je suis d'accord avec toi. On a une ligne de trois quarts de premier plan. Je pense que des fois, on pourrait l'utiliser davantage, mais c'est vrai qu'on a... Je dirais qu'on est un peu la province hybride. Si tu veux, en Afrique du Sud, sur les trois provinces qui dominent, t'as les Bulls. Bon, mais là, c'est un rugby conservateur, africain, c'est Jake White, bon, on connaît, avec beaucoup d'occupations et de défis. T'as les Stormers. C'est peut-être l'équipe la plus romantique du rugby sud-africain aujourd'hui. Il y a une culture de l'offload. Ils ont un rugby très offensif, très, très positif. C'est un peu le Stade Toulousain sud-africain, si je faisais un raccourci. Et nous, je dirais, les Sharks, on est hybride entre les deux. On a des conditions de jeu qui sont quand même très humides ici à Durban régulièrement. Donc c'est pour ça que le jeu au pied est prégnant. Ils savent que jouer trop, c'est s'exposer à faire des en avant parce qu'on joue souvent avec 80% d'humidité, des chaleurs vraiment importantes. Donc je dirais que nous, on est hybride aux Sharks aujourd'hui. Maintenant, il y a un nouveau coach qui va arriver l'année prochaine. Je pense qu'il va aussi créer sa propre culture de jeu. Mmh.
Qu'attendent les supporters sud-africains du jeu et du rugby qu'on leur propose ? Est-ce qu'ils ont envie de voir comme en France le rugby romantique avec ce rugby de passe ? Ou alors on aime le rugby sauvage, le rugby à la Springbok ?
Non, le grand public, il aime le rugby sauvage. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a choqué, après avoir vu des matchs de Springbok ici, et notamment le dernier Afrique du Sud-Argentine, bon, il n'y a eu que des molles et du combat d'avant, mais le public, et même le public féminin, ils sortent de joie dès qu'il y a une collision qui laisse un mec au tapis, tu vois. Donc ils adorent ça. Dès que tu as une percussion, tu as un mec qui subit, le stade se lève. Ils ont, je l'ai dit, dans leur gène, dans leur sang, cette volonté de dominer athlétiquement l'adversaire. Et ça, c'est ce qui m'a marqué chez eux.
Denis, je crois que tu as une question pour Yannick. Ouais,
je pense que l'année prochaine, à Bègles-Bordeaux, on va jouer à la Sud-Africaine. mais non, mais Yannick, plus sérieusement, qu'est-ce que tu leur apportes, toi, de ta culture française, de ton expérience?
J'espère que je leur apporte quelques petits trucs. Déjà, la connaissance du rugby européen, parce que moi, une de mes missions ici, c'est de travailler sur les, ce qu'ils appellent les previews, c'est-à-dire les présentations des équipes adverses, forces, faiblesses. Donc, déjà, ça, là, je travaille là-dessus. Et après, j'ai envie de te dire, j'espère, et des fois ça les a choqués un peu au début, une culture du jeu en mouvement. C'est-à-dire qu'eux, ils aiment répéter les exercices. Non, mais si tu veux, quand tu fais du nettoyage ici, bon, mais ils font les exos qu'ils faisaient il y a 10 ans, le T-bag, ils mettent les poudins au ras du sol, il faut venir taper très fort, être très bas. Bon, ben nous, on aime bien mettre le ballon en jeu avec des petits surnombres. Des fois, il faut regarder, des fois, il faut passer, il faut s'adapter, il faut prendre des décisions. Ça, ça les perturbe au début. Voilà. Après, les Sud-Africains, à l'entraînement, tu vois, un Français, un Latin, si tu lui fais le même entraînement pendant 3 semaines, il va te dire, non. Commence à me faire chier à tes séances. Sud-Africain, si tu modifies trop souvent la séance, il va te dire, attends, coach, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Moi, j'aime bien quand ça répète, que ça me donne de la confiance. Il marche à ça. Donc, il marche sur la répétition, la compréhension parfaite de ce qu'on attend d'eux. Et ils n'aiment pas trop qu'on les mettre dans une certaine incertitude, tu vois, où il faut prendre des décisions. Ouais. Alors, j'ai envie de te dire que si le Stade Toulousain, c'est le pôle Nord, ben, la façon de coacher ici, c'est le pôle Sud. Donc, je me suis dit, en venant là, je vais peut-être me trouver au milieu.
C'est incroyable. Yannick, l'intégration des provinces sud-africaines à la désormais ex-Coupe d'Europe avait suscité pas mal de commentaires négatifs ici en Europe. On n'aime pas aussi eux, finalement, qu'on change les choses. Après quelques mois de compétition, ton avis sur la question et comment est vécue cette compétition, justement, en Afrique du Sud? Je sais que vous avez plusieurs compétitions que vous disputez en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on se passionne pour cette Champions Cup en Afrique du Sud?
Je te mentirais si je te disais que bon, il y a un engouement terrible. Bon là, on a joué les huitièmes. Bon, il y avait 25 000 personnes dans le stade à Kings Park. Bon, ceci dit, ce sont des stades. Bon, Denis connaît. Il fait 65 000 places Kings Park, donc 25 000. On a l'impression qu'il y a personne dedans, mais il y en a quand même 25 ou 27. Donc l'engouement vient avec la victoire et les phases finales. Jusqu'à maintenant, le public trouvait ça un peu illisible. Voilà. Par contre, sportivement. Franchement, il y a une grosse excitation. Les joueurs, ils veulent montrer qu'ils sont dignes de la Coupe d'Europe. Ça les a un petit peu blessés qu'on dise qu'ils arrivent en force et ils sont pas légitimes. Donc, ils veulent montrer qu'ils ont une légitimité sportive. Et ça génère une motivation assez incroyable. Et je crois honnêtement que sportivement, ça a quand même fait monter le niveau de la compétition. Je ne rentre pas dans les considérations politiques, mais on voit bien, t'as les 3 franchises sud-africaines et qualifiées à 8e. Il va y avoir des beaux matchs en quart aussi. Je pense que la Coupe d'Europe, sportivement, elle en a tiré quelque chose. Après, sur le plan du patrimoine, bon, je ne rentre pas dans ce sujet.
Ouais, mais ça ressemble à une mini Coupe du Monde quand même. Hein.
Christophe, juste je voulais demander à Yannick, est-ce que c'était une histoire de survie aussi un peu, enfin de survie ou de quelque chose comme ça économiquement, parce que voilà, ils font plus le super rugby, donc nous on l'a vu comme ça européen, hein, qui vient de faire là, mais est-ce que c'était aussi tendre la main aux Sud-Africains dans le rugby mondial?
Je pense que c'est un peu dans les deux sens. Oui, le rugby sud-africain souffre. Honnêtement, je te l'ai dit, la vie elle est dure, hein, en Afrique du Sud, bon, pas sur plein de raisons. D'abord socialement, politiquement. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une vie rude, la vie c'est une compétition et leur vie souffre économiquement, incontestablement. Je pense aussi que le fait que la Coupe d'Europe n'allait pas très très bien, hein, parce que si on est vraiment honnête, La Rochelle, Toulouse, le Leinster, après qui peut gagner la Coupe d'Europe? Ouais, ça tournait quand même en rond et les clubs anglais étaient sur le déclin. Donc je pense que la Coupe d'Europe avait aussi besoin d'un nouveau souffle sportif. Et les Sud-Africains étaient demandeurs, parce que demandeurs, c'est pas qu'ils ont été éjectés, hein, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, du Super Rugby, c'est que la logistique était trop compliquée. Ils voulaient être sur le même fuseau horaire, Et je pense que l'Europe s'est dit qu'il y a quand même un marché peut-être à aller conquérir là-bas parce qu'ils sont champions du monde et que le rugby est vraiment le sport numéro un de loin ici. Donc voilà, je pense que c'est quand même un fonctionnement dans les deux sens. Mais oui, tu as raison, économiquement, le rugby sud-africain a besoin de trouver des solutions.
Alors, samedi prochain, enfin même avant samedi prochain, tu vas donc prendre la direction du Stade Ernest Vallon, que tu connais un petit peu, Yannick, pour venir défier le club où tu as fait l'essentiel de ta carrière, tu le disais, 18 ans en tout. Ça va pas être de tout repos quand même, le voyage pour venir de Durban jusqu'à Toulouse. Raconte-nous un peu les conditions dans lesquelles vous allez voyager. On a entendu cette semaine les clubs français se plaindre un peu des conditions difficiles pour aller jouer en Afrique du Sud, mais de l'autre côté, c'est pas mieux, hein.
Non, il ne faut pas qu'ils se plaignent, parce que c'est vrai que, je te l'ai dit, c'est une éducation dure, où on ne se plaint pas ici, et le confort des joueurs, il passe vraiment à un plan secondaire. Donc nous, voilà, la logistique, ben, elle est compliquée, parce qu'avec l'URC, ben, c'est tout le temps, on se déplace en Europe aussi, c'est tout le temps des voyages de 11 à 12 heures, avec des changements de compagnie, donc il y a toujours une journée de voyage. Nous, on va partir demain vers 13h et on arrivera mercredi matin vers 10h du matin à Toulouse. L'effectif va se diviser en deux groupes parce qu'il y a pour avoir assez de sièges sur deux compagnies différentes. Inutile de te dire que personne ne voyage en classe affaires dans le rugby sud-africain. Donc oui, c'est quand même une école de l'humilité, mais c'est aussi ça que j'étais venu chercher. Donc on va pas se plaindre, ça rappelle les années étudiantes.
Ouais. Donc tu vas mettre des bestiaux de 2 mètres dans la soute,
à 3 jours d'un 8e, quoi, c'est...
Ouais, non, mais c'est la réalité. On a toujours voyagé comme ça. Alors je sais que la Coupe d'Europe offre normalement sur les phases finales des conditions de voyage différentes et un peu plus haut de gamme, puisque c'est les quarts de finale. Mais la problématique, c'est que comme ici, la logistique, je te l'ai dit, elle n'est pas anticipée. Mais au dernier moment, trouver 30 sièges en classe affaires dans une compagnie, se met au défi de le faire. Ouais. C'est impossible. Ouais. Donc ouais, rien n'a été anticipé. Ouais. Donc maintenant, ben, tu es obligé de te rabattre sur des trucs. Et puis après, ce qui est très complexe ici aussi, c'est que la SARU, la Fédération sud-africaine, a quand même l'emprise toujours sur la logistique des équipes. Les Springboks, leur influence est partout. Et donc, y a toujours un deal à trois entre les franchises, la Fédé sud-africaine, la Coupe d'Europe. Et c'est pas très clair. Et au final, ça donne des choses un peu chaotiques.
Ouais. On ferait pas voyager les babas comme ça, hein, Denis. Hein, ça, c'est pas possible.
Alors, je te rassure, mais j'ai le même problème. J'ai le même problème à Houston, là, il y a au mois de juillet, parce que justement, au dernier moment, tu peux pas. T'as pas les places. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont voyagé en écho, un peu comme va faire Yannick, malheureusement. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est un problème de logistique.
Et nous-mêmes, si tu veux, on est sur deux compagnies différentes, parce que même en écho. Ben, il y avait pas Air France pouvait pas nous trouver ça, donc on s'est partagé entre Air France et Lufthansa, et on a eu la réponse au dernier moment. Ça a été très compliqué.
Manu Massica, peut-être une question pour Yannick sur ce match. Quelle belle affiche quand même, hein, Manu, entre
avant d'en venir au match, si tu permets.
Ouais, bien sûr.
Yannick parlait des relations avec la SARU, la Fédération sud-africaine et les provinces. Est-ce que la gestion des internationaux est entre province et fédération est aussi sensible qu'elle ne peut l'être en France entre club et justement fédération?
Je vais même te dire, on a peut-être 10 ans d'avance sur eux, parce que ce que je découvre cette année, les Sharks appartiennent à un fonds d'investissement américain qui s'appelle MVM Holdings, donc investisseur privé. Malgré tout, on a 8 ou 9 Springboks, en tout cas 6 cadres de l'équipe d'Afrique du Sud. Et donc, ça génère des zones de frottement. Pourquoi ? Là, concrètement, la semaine dernière, avant le match du Munster, on allait à Clamecy. On a récupéré les Springboks qui étaient absents depuis 9 semaines. 9 semaines, c'est-à-dire que l'affaire Jeuzerien a dit pendant 9 semaines, ils ne sont plus là. Ils sont plus là. 9 semaines, c'est plus qu'une intersaison en France. Ils les ont arrêtés pour pouvoir être dans de bonnes conditions dans la préparation de la Coupe du Monde. Et ça se comprend. Parce que si on rentre dans le détail, si vous voulez, ils n'avaient pas eu de repos depuis un moment. Mais 9 semaines, ils ont dit aux franchises, non, vous n'avez plus de Springbok. Imagine le Stade Toulousain à qui on dit, bon, c'est qui font déjà beaucoup d'efforts, mais pendant 9 semaines, les mecs plus là, ils jouent plus. Ils se reposent, ils se préparent spécifiquement avec les Springboks, et puis voilà. Et donc nous, à Clavecli, ça a donné un match catastrophique, parce que les Springboks, ils n'avaient plus aucun repère avec les Sharks. Ils avaient passé 2 mois et demi à l'écart.
C'est voilà. Dingue.
Et donc, ça va de moins en moins fonctionner, parce que je sais que chez nous, aux Sharks, les investisseurs privés, naturellement, ils commencent à avoir la réaction qu'ont eu les clubs français il y a 10 ans. C'est moi qui paye, donc à un moment, il faut aussi qu'on ait de la rentabilité.
Wilfried.
Ouais, 2 questions. Alors sur le match, Yannick, sur samedi, alors j'ai vu qu'il y avait eu un peu de la casse pour vous samedi. Est-ce que vous, en deuxième ligne, et de ces bêtes, ça rentre? Tu n'as peut-être pas tout nous dire. Votre demi-mêlée aussi, Hendrix est sorti blessé. Est-ce que, voilà, vous aurez l'effectif que vous voudrez? Et deuxièmement, quel est le danger numéro 1 face à cette équipe de Toulouse?
Et troisièmement, quelle est la compo, Yannick?
effectivement, on a eu de la casse parce que voilà, tu l'as vu, et je pense que Thielen
ils sont incertains, c'est ça, on dirait un bon entraîneur.
Thielen, je pense qu'il pourra pas jouer. On est entre potes, donc je vais pas vous raconter vous faire
le demi-mêlée, ouais.
Vous servir de la semoule. Thielen, lui, c'est sévère, donc il pourra pas jouer. C'est acquis et je pense que c'est assez grave. Concernant Eben, il est allé consulter des spécialistes aujourd'hui. On ne désespère pas de l'avoir. On espère évidemment qu'on l'aura parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des comme lui. Mais ce n'est pas sûr. Ça sera une décision et vraiment, ce n'est pas du birou. Ça sera une décision en fin de semaine. On espère l'avoir et c'est possible. Mais avis médical d'abord.
Ouais.
Voilà. Ensuite, tu m'as dit les dangers numéro 1 chez nous ou au Stade Toulousain?
Chez eux, au Stade Toulousain, ce que vous craignez le plus.
Ouais.
Ouais. Tout le monde le sait. Au
Stade Toulousain, c'est danger numéro 15. Il y en a 15.
Hein, oui, tout le monde.
Ça peut arriver de partout. Non, voilà.
Ouais, mais vous avez. Alors, samedi, vous avez regardé le match. Hein, vous avez quand même étouffé le Munster. Ce sera peut-être pas la même chose au niveau de la conquête, mais au sol, en mêlée, sur les phases de conquête. À un moment, ils ont espéré. Ça a été laborieux de mi-temps et après, ils ont fissuré. Là, ça va être là-dessus, sur le frontal, ça va être sympa entre
non,
vous.
Non, c'est vrai qu'on savait que le Munster, la bataille sera une avantage sera importante. Le jeu au sol est aussi. Donc, on les a chez nous, je pense qu'on a fait un bon match dans ces secteurs-là. Mais sans manquer de respect au Munster, c'est plus le Munster d'il y a 10 ans et ça n'a rien à voir avec le niveau du Stade Toulousain. Le Munster ne te propose pas des joueurs de classe mondiale à plusieurs postes. C'est quand même le cas de Toulouse aujourd'hui. Donc, moi, je connais bien la maison, je sais que le danger, il vient de partout. Et si tu mets trop d'attention sur un secteur, tu vas te faire avoir sur un autre. Parce qu'il y a plein de bons joueurs qui prennent les bonnes décisions, qui sont bien éduqués rugbystiquement et qui sont avant tout très costauds. Sur les bases, parce qu'on dit souvent le Stade Toulousain, c'est le jeu debout, la culture du offload, oui, mais en préambule, il y a toujours un travail de sapre important. Et donc, je sais qu'il y aura du danger partout et je sais qu'on ne sera pas favori, même si on a des très bons joueurs dans notre équipe. Et j'espère qu'on va faire un gros, gros match. En tout cas, ça va être un super événement et j'ai hâte d'y être.
Ouais.
Mais
Yannick,
voilà, on ne peut s'arranger à. Ouais.
Justement, d'entre amis, Yannick, dis-nous comment il faut battre les Sharks.
Non, on est capable de tout bon, parce qu'on a vraiment des joueurs aussi de classe mondiale, mais on est aussi capable de tout mauvais, parce qu'on n'a pas eu des performances sur la saison vraiment toujours homogènes, rectilignes et cohérentes. Hein. On a pris des gamelles, on navigue, les Springboks s'en vont, ils reviennent. C'est vraiment très compliqué, je te l'ai dit, sur un plan logistique à gérer. Donc on n'a jamais eu trop de continuité. Là, ils sont là avec nous jusqu'à la fin. J'espère qu'on va monter en puissance, parce que si on se contente de ce qu'on a fait contre le Munster, notamment défensivement, si Wilfried t'a vu le match, on pourra rien espérer à Toulouse. On pourra rien espérer à Toulouse, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Donc j'espère qu'on va avoir avant tout un très très bon match, passer un super moment de Coupe d'Europe qu'on attend, parce que voilà, la Coupe d'Europe, c'est ces matchs-là, quoi.
Ouais. Yannick, le Stade Toulousain, principal fournisseur de l'équipe de France, opposé aux Sharks, qui est un peu l'équivalent sud-africain, ça va ressembler à un éventuel quart de finale de Coupe du Monde. C'est un peu l'apéritif avant la Coupe du Monde, en quelque sorte.
Bah, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle aussi avec le France Springbok qu'il y a eu à Marseille. Voilà, j'espère qu'il y aura autant de j'espère qu'il y aura autant de suspense et qu'on sera un petit peu plus discipliné que les Springboks. C'est vrai qu'il y aura plein de duels sympas à suivre et que nos joueurs, comme les joueurs toulousains, je pense, auront ça aussi un petit peu en tête. En plus de la Coupe d'Europe, il y a toujours ce défi à distance entre les uns et les autres qui vont représenter leur pays dans quelques mois. Donc c'est vrai, ça va être chouette.
Ouais, ça va être chouette. Alors c'est vrai qu'ici en Europe, tout le monde évoque l'Irlande ou la France pour remporter cette Coupe du Monde, mais les Sud-Africains restent la référence, sont champions du monde, faut pas l'oublier. Est-ce que tu en fais à nouveau tes favoris pour la prochaine Coupe du Monde et voilà, est-ce que c'est vraiment l'événement dont tout le monde parle en Afrique du Sud, cette Coupe du Monde qui approche en France?
Ouais, non, mais je te disais, c'est le thème du moment. Est-ce qu'ils vont être capables de rentrer dans l'histoire et de défendre leur titre? Je crois d'être la première nation à avoir autant de titres champion du monde. Donc c'est quatre. Donc c'est vraiment leur fil conducteur. Mais voilà, je te disais, sur un sprint comme la Coupe du Monde, ils seront redoutables. Je suis plus inquiet pour eux après la Coupe du Monde parce que je pense que les règles vont évoluer un petit peu. En tout cas, la volonté des arbitres de favoriser un petit peu plus les attaques. Donc ils vont devoir se remettre en question après la Coupe du Monde. Ça va être la fin d'un cycle pour eux parce que je pense que Rassi Erasmus va passer la main. C'est la grosse tendance ici. Ils ont un pack et des cadres qui sont quand même un peu vieillissants. Donc je pense que le renouvellement sera dur parce qu'ils ont été très conservateurs. Ils n'ont pas intégré beaucoup de jeunes. Mais pour la Coupe du Monde, ils seront là. Ils seront là dans la densité, dans l'état d'esprit de compétition. Et ils seront vraiment durs à manœuvrer.
Alors, l'année prochaine, tu ne seras pas sélectionneur de l'Afrique du Sud, puisque tu vas quand même rentrer au pays. Hein, à un moment, il faut bien rentrer à la maison. Yannick, enfin, tu vas aller du côté de Bordeaux, puisque tu seras manager de l'UBB. Est-ce que tu travailles déjà, j'imagine, sur le recrutement? On a vu que Damien Penaud, par exemple, allait arriver à Bordeaux. Je crois que tu as d'ailleurs été l'un des principaux artisans pour cette venue. Est-ce que tu arrives à travailler comme ça à distance pour essayer de fabriquer déjà ton équipe de l'année prochaine?
Non, oui, bien sûr, évidemment, et il y a beaucoup de choses qui se préparent maintenant, en tout cas sur le premier trimestre de l'année pour la reprise de la saison future. Mais bon, on travaille en équipe avec l'ensemble de la cellule recrutement, l'ensemble des gens qui vont faire partie du staff, Laurent Marty, évidemment, qui est omniprésent dans toutes les étapes. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et moi, je suis dans ces équipes-là et on y passe du temps, ouais, tous les jours, évidemment, mais c'est normal, hein, ni plus ni moins que tous les managers ou tous les entraîneurs qui préparent leur futur projet. Tu vois bien sur le recrutement, maintenant, tout se négocie un an à l'avance et sinon, c'est vraiment trop tard, donc oui.
Quelques beaux bébés sud-africains dans tes bagages également?
Il y a quelques joueurs, c'est un peu sorti dans les médias. Ça n'a pas été totalement confirmé par le club, par l'UBB, donc je vais respecter la procédure. Mais il devrait y avoir un ou deux joueurs sud-africains, mais pas plus que ça non plus, parce qu'il y a une identité à l'UBB, il y a un public, il y a une histoire qu'il faut continuer. Avec une certaine harmonie entre l'équipe et son public, il y a vraiment un patrimoine aussi à respecter. Donc, il n'est pas question d'aller faire du rugby Springbok avec l'UBB. Mais je répète, cette expérience-là, elle est super enrichissante pour moi.
Ouais, Yannick, déjà Damien Penaud, tu te trompes pas trop, c'est bien.
T'es sûr, Wilfried?
Oh, quand même, écoute. Quelques bons matchs ces derniers temps, c'est pas trop mal, Damien Penaud. Juste l'ambition avec le président Marty, qu'est-ce que tu lui as présenté? Qu'est-ce qu'il t'a présenté sur les prochaines années avec Bordeaux?
Écoute, l'ambition, c'est continuer la progression de l'UBB en équipe, parce que je pense que ce club et cette ville véhiculent une image positive. Je crois aussi que la construction a franchi un cap avec l'ensemble du travail de Christophe Furios et de son staff. Et donc, l'idée, c'est de continuer cette progression du club global et de faire partie de ce projet-là. Et quand tu as atteint les demi-finales, ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe et en championnat, ben, c'est quoi continuer la progression ? Ben, c'est aller à jouer des finales, et puis si tu joues des finales, ben, peut-être qu'un jour, tu en gagneras une. Donc voilà, donc, je crois que le projet de Laurent, que la feuille de route qu'a fixé Laurent Marty, c'est aller chercher un titre avec l'UBB dans les 3 années qui viennent. Mais je pense que c'est quand même l'ambition de la plupart des présidents de clubs ambitieux du top 14. Donc moi, je suis très content aussi parce que avec mon parcours, je pense que c'était aussi l'étape suivante. Donc après, je ne te dis pas qu'on va y arriver. Hein. Mais par contre, je te promets qu'on va y travailler.
Parfait, merci beaucoup Yannick, c'était un plaisir de discuter avec toi, long entretien.
Ça a été facile techniquement, hein. on a eu du mal avec l'Afrique.
Ça a été dur.
Merci, bon, ouais. merci du temps que tu nous as donné.
J'espère que vous viendrez me tendre la main quand je serai interdit bancaire.
Oui, parce que c'est Yannick qui paye l'entretien téléphonique, évidemment. Tu peux l'envoyer à Denis sur la note des babas, tu sais.
On a un actionnaire quand même dans la téléphonie. Donc,
oui, c'est vrai, tu as raison. Peut-être faire quelque chose. Merci Yannick, on te souhaite un bon voyage quand même. Dans la soute, puisqu'il ne sera pas donc en business, on l'a bien compris. Donc, il va arriver un peu fatigué mercredi à Toulouse. Merci les potos. C'était un bon entretien avec Yannick. Et on a hâte de voir ce match. Ce sera donc samedi, Wilfried, samedi 16h, c'est ça ?
Samedi 16h. D'ici là, Christophe, t'as loupé ton train, t'en prendras un autre. Et Denis peut aller jouer à la pétanque maintenant. Parce qu'il fait nuit, bien sûr. Un enregistrement d'entre les potos qui était très long. Il faut dire les coulisses, Christophe, aux gens un peu, les râleurs qui sont là, quoi, dans cette émission.
Exactement. Bon, Manu est déjà en train de faire le bouclage du numéro de vendredi. Non,
Manu, il vous écoute, il apprécie un petit peu toute cette ambiance. Voilà, merci Pierre Amiche. Voilà, exactement. Merci Pierre Amiche de tant de patience. On voit bien que ce caractère d'or nous a offert un super podcast malgré les circonstances.
Merci les potos, à lundi prochain numéro. Bonne pétanque Denis, hein. Régale-toi et balaye. Hein.
Bon, Denis.
Il est parti déjà. Allez,
bonne semaine. Je suis là, je m'en vais.
À lundi prochain.
Ciao.